R22 tout le monde, antenne Kiasma. Bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Kiasma pour cette nouvelle séance fantôme. Quoi, séance fantôme, lundi de fantôme. Un lundi de fantôme, en fait, qui se trouve qui est un mercredi. Alors moi, je suis un peu troublé avec ça, mais normalement, les lundis de fantôme, c'est le lundi. Parce qu'il y a lundi dans le titre, et donc, comme ça, on sait quel jour c'est. Et donc là, on a fait un peu une... On s'est éloigné du chemin, voilà, donc c'est un mercredi. C'est pour aussi habituer les gens que c'est possible maintenant que le lundi tombe un mercredi, comme ce soir. Donc, le principe des lundis de fantômes, c'est de présenter... que des artistes, en fait, présentent à la fois des processus de travail, des œuvres qui sont en train de se faire, ou des œuvres qui sont fabriquées, ont été fabriquées, mais dont on revient sur les étapes de fabrication, les enjeux, aussi avec la parole de l'artiste lui-même ou elle-même, relier aussi des corpus d'œuvres qui ont été réalisées dans différents contextes pour redonner de la cohérence, donc en tout cas rentrer plus particulièrement dans comment se fabriquent les œuvres, comment elles s'agencent, comment elles se racontent. Donc c'est un moment un peu privilégié, qui est à chaque fois un petit peu, comment dire, différent, dans la mesure où selon le stade des œuvres qu'on monte, c'est des œuvres qui sont déjà complètement là, ou parfois des œuvres qui sont encore dans un état à problématiser, à préciser, à poursuivre. Donc on a le plaisir ce soir d'accueillir Estéphane Apenafiel. C'est un double plaisir puisqu'on l'accueille dans le cadre de l'exposition, excusez-moi de vous avoir dérangé, dont une pièce ici, Compte à rebours, va être un peu un des sujets qu'on va aborder ce soir. Juste pour vous donner un petit aperçu de dans quoi on se trouve dans cette exposition à Kiasma. Donc, excusez-moi de vous avoir dérangé, c'est la parole du narrateur ou de la narratrice qu'on pourrait dire intempestif ou non désiré. C'est réfléchir dans cette exposition-là à ce qui se passe lorsque quelqu'un qui n'était pas autorisé à parler parle. Alors, ça peut paraître être un sujet qui n'est pas du tout d'actualité pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore entré dans le moment où tout le monde ne sera pas autorisé à parler de nouveau. C'est-à-dire, on va revenir à quelque chose qui peut-être était une actualité il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on a peut-être perdu de vue pour de très bonnes raisons et qu'on va retrouver pour des raisons qui sont un peu moins bonnes. Tout ça pour dire que l'idée, en tout cas, c'était de rassembler un ensemble d'œuvres qui réfléchissent à la possibilité d'infléchir un récit dominant à partir d'entrées, de saillies, de propositions, de manières d'être, de manières de faire, qui soient autres. Et donc, parmi les artistes de l'exposition, moi, j'avais choisi de proposer à Estéphania de participer avec cette pièce Compte à rebours, à mesure où, comme elle va nous en parler, est une pièce à la fois historique, mais qui parcourt l'histoire d'une manière un peu différente d'un récit linéaire dominant. Et c'était aussi une manière de l'inviter à venir nous présenter aussi une autre pièce sur laquelle elle travaille, qui est actuellement présentée au Jeu de Paume, dont on pourrait dire que c'est une pièce en tant que telle, mais aussi l'étape d'un projet qui doit devenir plus important. Donc c'est aussi l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et voilà, donc en tout cas, c'est aussi poser dans ce moment d'échange aussi l'idée de compagnonnage. Le travail de lundi de fantôme, c'est aussi mettre en lumière des processus de travail, de collaboration et d'alliance qu'on a ici avec des artistes dans la durée. Et ces petits moments-là, c'est aussi les faire apparaître et les partager avec vous. Voilà, c'est à toi, Stéphania.
Bah, merci, Olivier. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi et avec toute l'équipe des Kiasma, donc merci. Et c'est peut-être moi qui ai brouillé un peu les pistes en disant que, voilà, admettons un mercredi au lieu d'un lundi, mais merci d'être présent et d'être venu. Et donc, oui, peut-être on va commencer avec, je ne sais pas si vous avez eu un peu les moments de voir l'expo. Et en tout cas, on va commencer. J'ai choisi de montrer aussi un extrait de ces projets qui fait écho avec cette exposition et que c'est, dont je suis contente de les montrer. Parce que c'est la première fois en Paris que je peux montrer et la totalité de ce travail qui dure 76 heures. Donc ici, voilà, Olivier a permis qu'on puisse le projeter les 76 heures. Donc vous n'allez pas tomber et vous n'allez pas aller voir complètement. Mais il y a un résumé qui est juste à côté de l'écran à gauche. Et Compte à rebours, c'est un projet qui a duré 8 ans. Donc, dans ma pratique artistique, si je peux donner aussi quelques pistes pour lesquelles je travaille, ça peut avoir lieu dans la durée. Donc, je travaille avec différents médias. Ça peut être voilà, la vidéo, ça peut être aussi, comme vous verrez, des actions, des photographies, enfin, différents selon les projets. Et ce projet, il m'a pris 8 ans, 8 années. Et ça a commencé en 2005. Donc en 2005, un peu pour vous donner le cadre dans lequel elle avait commencé, c'était ici la veille du vote de la Constitution européenne. Et en Équateur, on parlait encore une fois de réécrire une nouvelle Constitution. Donc il faut savoir, mon pays, donc depuis la première Constitution de 1830 jusqu'à 1998, il a eu 18 Constitutions. Donc, le moment que j'ai commencé ce travail, je me suis dit, bon, encore une fois, on parle de réécrire une nouvelle constitution. Regardons combien il y en a. Donc, il y en a 18 qui étaient vraiment réécrites. Ça veut dire ne pas seulement faire un amendement ou un changement, sinon vraiment réécrire l'histoire, soit par des intérêts politiques de gouvernement à ce moment-là, soit aussi comme une idée de faire table rase quelquefois du passé et réécrire l'histoire, recommencer à nouveau. Donc, j'ai voulu faire une pause à cette espèce de flou historique et dire, bon, je vais relire alors l'histoire de mon pays. Et j'ai voulu le faire presque littéralement, mot par mot, phrase par phrase. Commençons pour la constitution la plus récente à ce moment-là, que c'est 1998, sachant qu'il y a une nouvelle constitution, encore une fois, qui était réécrite en 2008. Et donc, commencer, mais vraiment de la dernière mot de la Constitution de 1998, et relire tout. Donc, ça veut dire réapprendre aussi à lire à l'envers jusqu'à prononcer les premiers mots de la Constitution, de la première Constitution de 1830. Donc, c'était un exercice qui m'a pris 8 ans, dans lequel j'ai enregistré ces lectures en différents espaces publics. Et c'était, donc vous savez, en espagnol, on prononce toutes les lettres. Et donc, c'était un exercice de commencer. Donc, je vous dis à l'inverse, vraiment, c'était, par exemple, quand on voit des droites à gauche et d'en bas au nom. Donc, je n'ai pas réimprimé les constitutions, sinon vraiment un exercice, mais approprié un peu de cette espèce de nouvelle langue. Et donc, Constitution Política del Ecuador, voilà, à l'inverse, ça peut donner comme Rod Auque. L'aide à qui tilop nois tout itznok. Donc, vraiment, apprend à lire aussi les accents, parce que toutes ces lectures qui ont été réalisées et enregistrées en vidéo et son, à la fin des 8 années, tout ce montage vidéo, il était encore une fois renversé, encore une fois, il était renversé dans les montages vidéo. Donc, bon, je veux dire, vous pouvez imaginer, je ne sais pas si vous parlez, quelqu'un parle un peu l'espagnol ? Un tout petit peu ? Bon, vous allez comprendre, ou en tout cas, me croire. Donc ça, c'est un résumé. Je vais vous expliquer un peu mieux. Peut-être vous l'avez déjà vu.
Constitución, política de la República de Ecuador de 1830. Artículo 2. El Estado del Ecuador se une y confedere con los demás estados de Colombia para formar una sola nación con el nombre República de Colombia. Artículo 33.
Donc là, bon, si vous n'avez pas compris, En fait, il faut me croire parce que c'est, on comprend très bien. Déjà, c'est renversé et ça, c'est la constitution les plus récentes. Vous savez, comme j'ai commencé avec la constitution la plus actuelle de 1998, donc c'était tout l'exercice d'essayer de lire. Donc, c'était très difficile au début, jusqu'à la première constitution de 1830. J'ai complètement appris à lire à l'envers. Donc, quand ça se met à l'envers, elle devient compréhensible. Donc, au fur et à mesure que les constitutions, que l'histoire du pays avance, ça veut dire 1830, 1906 et toutes les constitutions, la dernière, les plus récentes, elles deviennent incompréhensibles. Donc aussi, avec cette flou de l'histoire, est-ce que réécrire l'histoire d'un pays, est-ce que ça construit vraiment un récit? Donc, c'était un peu cette réflexion au-delà de ça. Donc, je vais vous mettre un autre exemple. Je sais un peu où je me trouvais, soit en Équateur, la plupart aussi, il a eu lieu en France, à Bruxelles aussi. Où je pouvais me trouver. Et quelquefois, comme ça arrive dans le monde de l'art, ou ça nous arrive à nous les artistes, une fois qu'on se met aussi dans l'énergie du travail, il y a l'art aussi qui agisse et qui prend une relation avec la réalité assez intéressante. Ce qui m'est arrivé avec les deux projets que je vais vous présenter. Et donc ici, je vous montre un petit extrait et je vous raconte après.
Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. Dictará su resolución aprobando el procedimiento del gobierno. Artículo 80.
Donc bon, là j'ai failli mourir, mais vraiment. Et c'était un moment important parce que j'ai voulu lire en face de l'Assemblée nationale, dans du Congrès, et je ne me suis pas rendu compte qu'en renversant, bon, d'abord je devrais être assise au milieu des escaliers qui étaient dans l'Assemblée nationale, et mon père qui me filmait, parce que j'ai demandé un peu l'aide des gens qui me filmaient, il a voulu que pour voir le fresque qui était juste derrière, je me place où j'étais placée. Et comme ça, je l'ai sauvé sans savoir un peu ma vie, parce qu'en fait, ces grandes portes qui ferment, qui ouvrent et qui ferment l'accès à l'Assemblée nationale, et c'est une porte assez lourde qui pèse des tonnes et qui est juste tombée au lieu où je devrais être assise. Donc voilà, c'est vraiment, ils ont eu besoin d'une grue pour pouvoir la déplacer. Et en faisant les montages à l'envers, je me suis rendu compte, bon, c'était la constitution la plus libérale de mon pays. C'était vraiment une constitution où, voilà, il y a eu beaucoup de changements très progressistes et positifs dans mon pays. Et c'était le moment où j'ai parlé comment l'Assemblée nationale, il devait faire son devoir et faire accomplir aussi les lois. Donc voilà, c'était un moment de tension et c'était drôle, donc parce qu'il parlait que c'était les esprits de ce gouvernement les plus qui venaient faire intercéder à cette relecture à l'envers. Mais oui, c'était un petit tourbillon qui s'est passé vraiment seulement entre les escaliers et moi. C'est seulement que personne ne me croyait parce qu'en Équateur, on dit il a pas de tornade. Bah, là, à Quito, il me disait non, c'est pas possible. Donc, quand je montrais les films, vraiment, ils m'ont cru, mais c'était entre la porte et les congrès. Donc, comme les vidéos et les films, dehors, il n'y avait rien. Ça s'est passé vraiment, et j'ai pu voir comment il venait les vents, et pendant que mon père est filmé. Donc voilà, si ce n'était pas enregistré, personne ne pourrait me croire. Mais pendant que j'ai réalisé ces projets, voilà, il s'est amené qu'il avait des discussions, revoir un peu l'histoire, commencer à provoquer aussi des incidents dans la réalité, que, voilà, que la pensée magique, il pourrait interpréter d'une autre façon l'histoire de mon pays. Mais quand tout il est montré dans le filet de 1830 jusqu'à 1998, et voilà qui est...
Qu'est-ce qui arrive quand c'est presque la fin? Oh, Lara, la politique nationale qui respecte la diversité citoyenne, la pluralidad, la seguridad y los derechos de los demás.
Dès la première lecture que j'ai faite, c'est donc vous faites quoi? Voilà, ça continue l'histoire écrite de mon pays et ça devient plus incompréhensible. Les mots, c'est difficile de les saisir. Et voilà, est-ce que l'histoire, elle aide à cette nouvelle reconstruction, cette idée de réécrire. Voilà, donc ça pour Compte à rebours. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre. J'enchaîne un peu avec... Si jamais vous aussi, parce qu'on est aussi un petit comité, si vous avez des questions, des remarques, tout ça, sentez-vous.
Moi, ça m'intéresse de savoir comment cette pièce, tu la resitues par rapport à ton travail. Parce que là, du coup, pour ceux qui le découvrent, on voit cette pièce-là. Tu produis des pièces qui ont différents types de formes, pas que des films, parfois de la photographie, une forme de sculpture un peu minimale. Voilà, comment tu positionnes cette pièce qui, comme elle s'étale sur une période assez longue, qu'est-ce qu'elle dessine dans ton travail par rapport en termes de thématiques, d'idées, qu'est-ce qu'elle a en commun et qu'est-ce qu'elle a en particulier avec d'autres œuvres de cette période qu'elle traverse?
Oui, comme je disais, bon, ça c'est vrai que ça s'est fait dans la durée, comme ça j'ai des autres pièces, donc la durée c'est aussi un outil presque, ou un élément qui aide aussi dans les récits de Les Sauvres. Et bon, j'ai plusieurs axes dans lesquels j'explore, qui sont aussi la frontière, les entre-deux, et donc aussi les déplacements, les territoires, et d'une façon beaucoup plus ample aussi, les frontières pour exemple entre les visibles, l'invisible, les points de vue, puisque les déplacements aussi, les points de vue, comment en se déplaçant on voit les choses autrement, et ça d'une façon large. Mais dans ce travail, je pourrais dire que c'est ça aussi. Comment ces points de vue aussi, ça change par rapport à un moment où on est placé dans l'histoire. Et aussi bon, le fait de venir de l'Équateur, que j'ai dit beaucoup, et dont je parle, que c'est voilà un pays qui a, c'est un pays, l'Équateur, mais c'est aussi voilà une ligne imaginaire, c'est aussi un paramètre, c'est aussi une limite, c'est aussi une frontière d'une certaine façon, mais c'est aussi une idée, c'est aussi un concept, c'est quelque chose qu'on projette. Donc cette idée de projet, de limites, des lignes, de projeter tout ça d'une façon voilà, plus matérielle ou même ici évocatrice, comme c'est l'histoire d'un pays qui peut être quelque chose qui change et depuis on se place, on voit changer aussi son histoire. Dans ce sens, ici, il a... Et le travail qu'on est en train de collaborer, de réaliser ensemble, peut-être on voit beaucoup plus aussi cette exploration sur le regard, sur les visibles.
On peut continuer, on reviendra après sur cette pièce-là, au regard de cette pièce nouvelle sur laquelle tu travailles, qui est au demeurant très différente.
Oui, tout est un peu lié, mais c'est vrai que je connais un peu Olivier Kiasma depuis quelques temps, mais j'ai reçu récemment, bon, en février, l'invitation de Joe Despons, de Martha Gili et de Georges Didier-Bermin, de concevoir une œuvre, un travail pour l'exposition des soulèvements. Et j'ai voulu là collaborer aussi avec Olivier, avec Chiasma et avec Spectre. Et nous reprenons voilà, un travail, une recherche qui a donné lieu à deux travaux qui sont exposés maintenant au Musée des Jeux des Pommes, mais qui aussi date un peu, c'est pour ça que j'ai appelé la étincelle pour commencer à parler de ça. C'est depuis 2008 en fait que je travaille autour, je me renseigne autour d'un événement et qui était voilà qui est arrivé. Donc je veux vous parler. Et je voulais seulement savoir. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont vu l'expo à soulèvement, donc qui connaissent un peu ce travail et même des autres qui me connaissent depuis quelques temps. Et donc aussi c'est dans la durée et cette fois c'est un projet de recherche où je ne sais pas quand ça aura fin. Qu'est-ce qu'il y aura fin, possiblement un film. Mais entre-temps, voilà, il a deux travaux qui sont au Jeux des Pommes. Et la étincelle de cette recherche, c'était un travail spécifique qui a lieu aussi en 2008. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? C'était le 21 juin en fait, 2008, il a eu un incendie dans les centres de rétention administrative parisien. Au Vincennes, plus connu comme le centre de rétention de Vincennes, qui est juste dans la limite entre voilà, Paris et Joinville, dans le 12e arrondissement. Et c'était après la morte de Saleh Messouli, un Tunisien, qui, donc, les soins médicaux, il s'était refusé. Donc, il a trouvé la mort à l'intérieur de ce centre de rétention. Et ça a provoqué des révoltes à l'intérieur et qui ont déclenché un incendie le 22 juin et qui ont incendié deux parties deux bâtiments du centre de rétention. Et donc peut-être vous savez aussi, bon là je suis aussi contente parce qu'il y a Dominique qui a travaillé pour un c'est pas un collectif vraiment, c'est un groupe. Donc voilà, quand je parle de ça aussi, Dominique, si tu peux aimer corriger ou ajouter des choses. Et il a eu tout un groupe de citoyens qui ont suivi 6 mois après l'incendie aussi tout ce qui s'est passé à l'intérieur, parce qu'il a eu aussi des grèves, des refus de manger, d'être compté. Pardon ? 6 mois avant, j'ai dit après. 6 mois avant cet incendie. Et donc, ça, j'ai lu un peu pour quelques médias qu'il a eu cet incendie. C'est vrai que j'ai trouvé, par exemple, j'ai tombé sur presque la même image. Donc, il a eu deux images surtout, et celle-là, qui elle était présentée dans plusieurs médias. Donc, déjà, un peu, voilà, pas beaucoup d'images. Ou plutôt, cet événement, il était recouvert pour très peu d'images. Et le lendemain, donc je vais continuer à parler de cet événement, mais le lendemain, je suis allée pour la manifestation qui a eu lieu, justement pour supporter autour du centre de rétention. Et on est en train de manifester, et on se trouve à une première barrière, qui est une première frontière, que c'était la police. Donc on ne pouvait pas accéder au lieu, on ne pouvait pas voir les traces aussi de cet incendie. On ne pouvait pas prendre des photos, on ne pouvait pas s'approcher. On a resté dans les environs. Donc, ce que vous voyez là à droite, c'est l'hippodrome de Vincennes. Je ne sais pas si vous les connaissez, si vous êtes allé, mais on connaît beaucoup l'hippodrome parce que c'est un lieu spectaculaire où il y a beaucoup de lumière sur cette rue, c'est juste en face du centre de rétention. Et donc, voilà, notre regard, il était dévié aussi, pour ne pas voir ces traces ou ce qui s'est arrivé. Et je me suis intéressée un peu pourquoi, justement, cette interdiction, cette problématique pour pouvoir prendre des images, pour pouvoir s'approcher. Donc, il faut comprendre aussi que les centres de rétention, ils se trouvent. Donc,
ils se trouvent là. Ça, c'est les centres de rétention. Et bon, ça, c'est une photo qui était prise en Nouvelle Alerte avant l'incendie. Donc ça, c'est les centres de rétention 1 et les centres de rétention 2. Et l'incendie, il a eu lieu ici, dans un bâtiment après l'autre. Et il est juste en face des grands hippodromes. Mais ici, on a l'autoroute A4 et on a Joinville, le métro Joinville qui est juste en face. Donc, il y a toute une partie qui est couverte pour le bois des Vincennes. Et bon, il y a la route qui est là. Donc, c'est déjà un lieu aussi qui est un peu caché entre les bois. Et entre les bois de Vincennes et il a pas de des annonces qui dit centre de rétention. Il est dans les seins de l'école de police, donc c'est à l'avenue de Joinville de l'école de police qui est tout cet ensemble que j'ai signalé. Ça c'est l'école, donc c'est seulement une partie qui est le centre de rétention. Et donc mais disons, voilà pourquoi cette problématique de visibilité, justement, par rapport à ces lieux un peu cachés, et la lisière aussi de la vue des gens. Et à côté, il y a la ville, comme vous avez vu. Et j'ai commencé dans ces recherches. J'ai fait un premier travail qui fait partie d'une série. Je travaille aussi beaucoup par des séries. Comme ça, je développe plusieurs intérêts. Et ça s'appelle La ville invisible 3, La étincelle. Vincennes 2008. Donc, ces lieux, les coordonnées, je suis allée à Google Earth en disant, on pourrait, encore une fois, il y a une frontière pour les voir. Si on est dans Google Earth, tout de suite après cet événement, on ne va pas voir non plus les traces de cet événement. Donc, du coup, ça, c'est les coordonnées. Et j'ai fait une sélection des 12 images, une plongée, comme une vue cénitale. Depuis voilà, les ciels, jusqu'à on s'approche au centre de rétention, donc on voit l'hippodrome, jusqu'à on s'approche à la façade, à une des façades du bâtiment qui a été brûlé. Mais cette série des images, c'était une sélection des diapositives. Donc, c'était une installation où on avait la projection des diapos qui projetait les 12 images, mais entre chaque image, il y avait du noir. Et ce qui recevait cette projection, c'était un écran avec de la peinture photosensible. Donc, c'était un écran phosphorescente où chaque image, chaque fois qu'il avait, donc il avait les projections du ciel jusqu'en arrivant à la façade, et chaque fois qu'il avait la projection de la lumière, de l'image, quand il avait les noirs, ce qui est arrivé, c'est que cet écran, il absorbait la lumière en laissant nous voir les fantômes de l'image précédente. Donc, comme une espèce de palimpseste, les images qui se projetaient, ils continuaient à s'accumuler sur cet écran et on voyait c'est un effet de rétine aussi. Donc, on avait l'image plein les yeux. Donc, justement, cette image qu'on n'a pas pu voir, on les avait plein les yeux et quand on essayait de les voir, il nous restait ces fantômes. Ces traces qui étaient, qui n'étaient pas réelles, si on peut dire, c'était seulement la trace. Et donc, il avait aussi la peinture phosphorescente, les phosphores, les feux. Il faut dire que, oui, l'incendie, il était causé par le retenu. Il s'avait brûlé des matelas. Et là, je vous dirai un peu après, mais voilà, c'est par les feux des matelas qui sont là, parce que c'est les seuls éléments qu'il trouve pour pouvoir. Ça vient pour le matelas. Donc, c'était lieu un peu fantomatique, couvert un peu de cet lieu qu'on ne les voit pas déjà quand on s'approche dans le bois de Vincennes, mais qui est un peu couvert aussi par les bois, par différentes frontières. Et j'ai voulu aller un peu plus loin. Donc, ça c'était la étincelle. Ce travail. Et quand j'étais invitée pour Georges Duverman et pour Martha Gili, je me suis dit, je vais continuer avec cette recherche parce qu'en plus, et je dirai ça après aussi, mais il a une trentaine de centres de rétention, plutôt maintenant, en France. Ça, c'était le centre de rétention le plus grand à ce moment-là. Maintenant, je pense que c'est celui de Roissy, qui était construit après. Mais il a eu une suite d'incendies aussi, d'une façon incroyable, comme si c'était tacitement ces feux qui s'est répandu et qui a pris dans des autres centres de rétention en France. J'ai pu pour le moment compter une douzaine. De la même façon,
le feu qui est à l'intérieur par rouler un matelas. Mais donc, différents centres de rétention en France, et il a commencé aussi à continuer à avoir des incendies. Bah, depuis, dès que j'ai ça, depuis 2008 que j'ai commencé la recherche jusqu'à 2016, il a eu 11, 12, sachant aussi que les centres de rétention, et ça je l'ai su après, il a eu des Vincennes, il a eu un autre incendie en janvier 2007, beaucoup plus petit, et ça je l'ai su après. Mais cet événement, cet incendie en 2008, nous a donné aussi l'image de cet incendie, de ces centres, ça nous a aidé à regarder que ces lieux existent. C'était d'une ampleur, c'était très... très simple. Donc, la recherche a continué. Et je savais déjà. Et ce livre dont je parlais tout à l'heure, donc une des personnes de ce groupe est là, et s'appelle Feu au centre de rétention, et que je veux vous faire passer aussi, si vous voulez, parce que il contient les témoignages des retenus à l'intérieur, parce que c'était à travers des conversations téléphoniques. Donc il avait déjà aussi une autre frontière, il ne pouvait pas rentrer. Il y a très peu des associations, je pense qu'il y a seulement la CIMAD qui peut rentrer. Donc cette groupe de citoyens a voulu être en contact avec les retenus, donc presque chaque jour il avait des conversations téléphoniques qui décrivaient l'état à l'intérieur de ces centres et qui sont recueillis, donc l'état d'âme aussi des gens qui étaient là et comment cette révolte a eu lieu. Et j'ai retourné aussi, encore une fois, donc ces lieux, cet espace. Je me suis dit, recherchons aussi cet endroit hanté aussi par l'histoire et fantomatique dans le sens où il est placé. Et je suis retournée à Google Earth. Ils ont peut-être aussi les traces de cet endroit, cette image de la réalité dans laquelle on peut accéder. Est-ce qu'on continue à aller est-ce qu'on peut accéder à cette image ou pas? Et il y a une fonction historique maintenant en Google Earth qui montre un peu les passages, différentes images pendant le temps. Et ici, c'est une image de 1949. Après, j'ai trouvé des images qui étaient bien avant l'incendie. Donc il y en a plusieurs, jusqu'à on trouve à un moment donné l'après aussi de l'incendie. Donc comme vous voyez, il y a aussi tout un bâtiment, c'était les centres de rétention 1 et les grands bâtiments qui est là, détruits. Donc maintenant on voit la trace ou les conséquences de cet événement, même si on n'a pas vu les traces de l'incendie même. Et ensuite, directement, on a la reconstruction de ces centres, qui est devenue encore plus grande. Il accueille beaucoup plus de retenues qu'avant. Sachant qu'il a une capacité, je pense, de 1240 personnes. Et donc, ils ne sont pas reconstruits l'autre centre qui était brûlé, mais ils sont reconstruits les grands. Voilà, cet bâtiment, il est beaucoup plus grand, donc accueille beaucoup plus de retenues. Je ne sais pas si vous savez, les centres de rétention qui retiennent les migrants sans papier, avant de les conduire, au lieu de les expatrier et les envoyer soit par bateau ou par avion dans leur pays. Et quelquefois, ça arrive aussi, Google Earth travaille, il y a des nuages. À un moment donné, j'ai cru aussi que c'était la fumée. Donc encore une fois, une autre frontière, que c'était les ciels dans les documents. On ne voit rien du tout. Mais ça évoque aussi la fumée. Et maintenant, c'est les images qu'on peut trouver en Google Earth dans l'actualité. Donc, je me suis déplacée encore une fois aussi dans ces lieux, maintenant qu'il n'y avait pas des frontières de la police. Et j'ai décidé un peu de faire les tours. Pardon. Aïe. Et les tours. Les tours du centre, sachant qu'on ne peut pas les faire. Je voulais faire les plus proches possible pour voir justement qu'est-ce qu'on a trouvé autour. Mais on ne peut pas s'approcher à une grande partie parce qu'il est aussi caché entre les saves, mais il a des barbelés, mais il a aussi la rue, il a les ponts. Donc, en m'approchant, en allant le plus proche possible, j'ai trouvé déjà en sortant du métro aussi cette barrière que c'est aussi la forêt. Il a les arbres, j'ai trouvé quelques signes. Donc ça, c'était un des premiers repérages que j'avais fait. Et c'était drôle, voilà, je commençais à voir quelques signes. Comme là, je ne sais pas si vous reconnaissez cette publicité aussi, que c'est par rapport à la poubelle, qu'il est juste à côté, le centre, il est à droite, en fait. Et ça, c'est les ponts. Il y a aussi les murs qui séparent la rue, dans des murs en face. Là, on a à droite la seule signalétique qui dit école de police à un moment donné, mais voilà, et ça, et c'est une direction à gauche. Il y a des signes aussi de passage humain. Et à un moment donné, on est juste en face de l'hippodrome, dont le centre de rétention, il est derrière moi. L'hippodrome, où c'est cette place, cet espace qu'il y a entre l'hippodrome et le centre de rétention. En fait, c'est un lieu aussi où, de l'automne 2015 jusqu'à l'automne 2006, il y a une construction, un grand aire d'accueil des gens de voyage. Et donc maintenant, je pense, bon, ça va, c'était pas fini encore, mais voilà, il est aussi un lieu pour accueillir encore des gens de voyage juste en face des centres de rétention. Et à un moment donné, quand on fait les tours aussi, on voit que toutes ces frontières, dont j'ai trouvé des frontières, il y a des frontières qui nous empêchent aussi à voir, comme c'était les murs, la forêt, et cette rue. Mais à un moment donné, il s'ouvre. Si on continue, on se rend compte que la ville, elle commence à apparaître. Jusqu'à, bon, là, c'est un magasin des luminaires aussi. J'ai trouvé drôle qu'il y a la seule grande magasin des lumières qui est. Donc, c'est signe aussi des lumières qui apparaissent dans les parcours. Et je me suis dit, bon, c'est la ville qui est là. Ça veut dire, si les bâtiments qui regardent aussi les centres de rétention, qui sont là en face, si on voit la ville, c'est parce que la ville aussi, elle est capable de voir à ces côtés-là. Donc là aussi, quelquefois, c'est en face. Si peut-être ils ont vu aussi la fumée ou l'incendie qu'il y a eu au centre de rétention, du coup, cette idée de voir, est-ce qu'ils savent ce qui arrive? Et cette fumée de cet incendie, ça est devenu presque comme des signaux de fumée. Ça veut dire que c'était fait pour l'extérieur, presque littéralement. Il y a de la fumée qui sort. Donc, on peut aussi les voir. Ce sont des signaux qui s'adressent à qui? Peut-être à nous. Bon, peut-être, je pense qu'à nous. Cette fumée qu'on peut voir. Donc, du coup, cette visibilité aussi nous interpelle. Et quand la ville, elle s'approche, les fenêtres, ils sont là, ils donnent juste au centre d'attention, voilà ce qu'on peut dire. Est-ce qu'ils sont vus? Donc, ils savent. Ou ils n'ont rien vu. Ils savent pas. Il y a aussi les frags lumière comme ce signal de... Voilà, la lumière autour de ces parcours. Et encore une fois, on va près de Joinville et ça commence d'ici la forêt encore, donc l'autre frontière des Sabres. Et donc, avec ces repérages, j'ai continué à faire les recherches plusieurs fois et j'ai tombé, quand je disais que la SAR, quelquefois aussi, ça aide quand on ait vraiment une idée dans la tête et on cherche. Et par hasard, je me trouvais dans une foire des livres. Et j'ai vu une accumulation de plaques de verre à côté, mais un peu laissées comme des poubelles. Et je m'approche et je tombe sur cette petite boîte où il disait Exposition coloniale août 1931 Paris. Et oui, en effet, il s'agissait des plaques, des vrais murs d'argent, une boîte avec quelques plaques qui étaient cassées. Qui faisait et qui était de l'exposition coloniale à Paris en 1931, qui, comme si vous le savez, ça a eu lieu et entre la Porte Dorée et les Bois de Vincennes, où voilà, ils s'étaient exposés toute la grandeur aussi de la colonie française et plusieurs groupes humains étrangers aussi. Et les parcs zoologiques des animaux, qui a eu lieu aussi, juste aussi à côté de, près du centre de rétention aussi, mais dans les bois de Vincennes, dans toute cette zone à côté. Et à l'ouvrir aussi la boîte, Et c'était des souvenirs des familles, des visites de cette exposition. Donc il a eu 12 plaques, tous un peu dans un très mauvais état, mais on pouvait voir voilà, les souvenirs d'une famille qui visitait l'exposition. Donc ça, dans la recherche, je me dis, oh, voilà, ça tombait dans mes mains, c'est aussi quelque chose à explorer. Tout cet usage de cette parc, pourquoi aussi c'était aussi loin dans les bois, tous ces lieux hantés par l'histoire. Et ça continuait aussi la recherche. J'ai tombé sur un livre, un de mes livres de chevalier, on dit ? Des chevaliers. Mais c'est pas la même chose. Mon livre de chevet qui est Rilke, qui c'est le premier livre que j'ai lu et quand j'ai appris vraiment les français, c'était un cadeau. Que c'est le livre de la pauvreté et de la mort, écrit 1903, et il a écrit à Paris. Donc il parle des grandes villes, il dit des choses comme « Les grandes villes n'ont rien de vrai, elles faussent le jour et la nuit, et l'espoir de l'enfant, la vie même des bêtes, et leur silence ment et leur bruit sont trompeurs. Et ils vont dans l'espace qu'embrasse ton regard, comme vont les mains sur les cordes de l'harpe. » Et ces projets, j'ai voulu les nommer « Et ils vont dans l'espace qu'embrasse ton regard. » Il a l'espace, embrasse, qui embrasse, il a le regard. Et ça est devenu voilà, le titre de ces projets, de cette investigation, de cette recherche qui a donné comme lieu deux travaux qui sont au jeu des pommes. Donc les premières, ils sont deux travaux, deux vidéos qui dialoguent entre eux. Et donc une vidéo qui dure encore 20 minutes, plus ou moins, qui s'appelle « Ça nous regarde ». 40 minutes, oui. Merci. Je dois dire, mon collaborateur, mon bras droit, il est là. donc, il s'appelle « Ça nous regarde ». Et ici, il a une phrase qui, depuis que je suis arrivée en France, ça m'interpelle. Bon, beaucoup d'autres phrases, mais celle-là en particulier. Et que quand quelque chose, ça nous intéresse pas, on dit « ça ne nous regarde pas ». Et je me disais, mais pourquoi il a le mot « regarde » dans ça ? De toute façon, il a un lien entre... Voilà. Pourquoi il a le mot là ? Et donc, le premier travail, c'est un film. C'est un travelling d'un long plan séquence et dans les périmètres les plus proches du centre de rétention de Vincennes. Mais toujours en laissant le centre de rétention hors champ, derrière moi. Donc la proposition, c'était de faire ces tours les plus proches que j'avais déjà fait dans les repérages. Et justement, j'avais repéré sur les frontières qui nous impossibilité de les voir. Donc les parcours les plus proches, c'est un peu près celle que je vous avais montrée tout à l'heure et qui faisait justement un jeune et les parcours que j'avais déjà repérés. Donc, l'idée, c'était de faire un seul plan séquence. Donc, c'était un steadicam. Toujours en pointant la caméra et en hors champ, donc laissant le centre de rétention derrière, comme si c'était le point de vue aussi du centre de rétention. Et ça a devenu voilà, un long plan séquence, une quarantaine de minutes. Et ce qui m'intéressait là, c'est drôle, dans une interview qu'on avait eue, par exemple, un journaliste m'a demandé, donc, OK, vous récupérez les images des médias ou vous montrez les images du centre de rétention de l'incendie. Je disais, non, justement pas. Ce n'est pas de montrer les images que les médias ils peuvent le s'utiliser. C'est plutôt montrer pourquoi ils sont invisibles. Qu'est-ce qui nous empêche de les voir ? Quelles frontières ? Provoquer un peu cette nécessité d'image. Au-delà de montrer tout à fait. Donc, c'était vraiment ça. Plutôt montrer comment ces barrières, ils nous limitent la vue. Donc, c'est un travelling qui recourt aussi les bois de Vincennes, pas une partie du bois. Et les murs que je vous avais montrés juste avant, Et ce qui est arrivé, c'est qu'après des mois qu'on a fait les repérages, on décide de filmer un 3 décembre 2016. 3, oh là là. J'ai lutté avec la grippe qui est en train de me monter. Oui, c'était le 3 juillet. Mais il a eu un autre incendie, plus petit, mais quand même dans les centres de rétention de Vincennes le 1er juillet. Donc on avait fait des repérages, mais les jours, donc c'est un peu un lieu qui s'est transformé aussi. Tout ce parcours, à un moment donné, il y avait des nouvelles traces qui nous indiquaient un peu ce qui s'est passé derrière nous. Voilà, bon, la réalité a fait que le moment qu'on a tourné, il y avait ces inscriptions aussi sur les murs qui dataient de 2 jours avant et qui étaient... voilà, il y a même un collectif aussi de militants qui s'appelle CRAM maintenant. Donc, ce sont des rétentions administratives et CRAM. Et oui, depuis les premières, l'incendie aussi de 2008, ils avaient écrit ça autour. Donc, pendant tous les repérages, il était là. Donc, ça indique, voilà, un nouvel incendie. Encore une fois, quand on a réalisé ces films... Et dans la réalité, il a eu un autre incendie. Donc encore de sortes signal de fumée qui s'adresse à nous, encore un autre geste de pouvoir devenir visible. Et ces centres... Bon, j'ai les films aussi, je voulais vous montrer. Les sons, il a été travaillé aussi. Du coup, Thierry, il est venu. Donc, c'est encore une fois les frontières, les entre-deux aussi, comme la forêt, même d'une façon mythique, c'était aussi les entre-deux, où il y avait les êtres étranges qui habitaient dans la forêt. Il y a la ville à côté, dans l'entre-deux aussi de la civilisation et la nature. Les mêmes signes d'avant aussi, je les ai trouvés. Et là, j'utilisais seulement un plan séquence, on avait filmé 2. Et je vais les utiliser pour après. Pendant qu'on a filmé, donc il avait dans les murs cette inscription que je vous ai montrée. Mais on a fait 3 plans séquences en fait. Et à un moment donné, on avait aussi les gens qui venaient visiter les centres, qui se sont adressés en pensant que c'était une caméra ou la télévision ou là. Donc il a eu ces intrusions aussi dans la réalité qui je l'ai pas voulu utiliser pour cette plan séquence. Mais qui seront après. Et du coup, voilà, toute cette hors-champ signale plus aussi de ce qui est à la manque de notre vue. Je pensais peut-être vous montrer... Les films durent 40 minutes, donc mieux aller au jour des ponts pour les voir. C'est une boucle, la vidéo. Mais il a eu un sens aussi, j'ai filmé à un moment donné, on est sur la partie où il y a la ville qui est derrière, qui commence à se dégager parce que les arbres ils sont moins pressants. Et donc, voilà, encore une fois, si nous, on regarde la ville ou ses maisons ou la ville aussi, il peut regarder ces côtés-là. Donc, ça nous regarde. Ces lieux, ça nous regarde. En tant que lieu même, mais aussi, voilà, éthiquement, politiquement, ça nous regarde, comme disait Georges. police, parce que on les voit pas, c'était un civil, mais les sons de la police, à cet endroit, c'était assez pressant qu'on filmait. Donc l'hippodrome, on retourne. Et l'autre travail qui s'appelle Signaux des fumées, que c'est une vidéo, et qui est aussi d'une quarantaine de minutes. Donc avec cette idée aussi des signaux qui nous sont adressés, j'ai fait avec tout ce matériel de recherche, j'ai imprimé plusieurs images. Et la vidéo, en fait, elle est très simple. J'ai disposé sur une table lumineuse plusieurs images. Et il y a une main qui passe et qui couvre l'image. Et qu'en même temps qu'elle la couvre aussi, elle la découvre. Donc aussi, peut-être dans mon travail, il y a aussi ce paradoxe que j'aime bien travailler, comment aussi l'excès de lumière, il peut nous aveugler, ou comment en effaçant, on dévoile. Ici, c'est un simple geste où une main, elle passe, voilà, elle couvre, mais découvre en même temps. Et c'est pour la projection de la lumière sous la paume de la main. Après, il y a un autre geste, ce sont deux gestes mécaniques qui se répètent pendant 40 minutes. Et que aussi au moment de... Donc il y a un qui passe la main et l'autre qui retire une image après l'autre. Et au moment qu'on on soulève une image, aussi l'autre, elle est découverte pour quelques secondes seulement dans nos yeux. Il y a aussi des parties des témoignages que j'ai pris du livre du feu au centre de rétention. Et des autres dispositions, des mêmes documents, où c'est aussi, encore une fois, entre les deux, entre voir aussi. On a vu ces images, mais l'effet de se répéter aussi, et la répétition et de ces gestes mécaniques, mais qui dévoilent toutes ces images.
Et alors toi, comment tu associes justement ces deux pièces-là? C'est un peu comme deux variations autour d'une idée, d'un lieu, c'est ce long plan séquence et ces séries d'images qui sont montrées au jeu de paume dans un même espace, ou en tout cas pas très loin les uns des autres, quoi. Comme composant une unique pièce pour toi, ou c'est quand même deux variations d'une même question explorée dans des vocabulaires différents?
Oui, je pense que les deux sont complémentaires, ça veut dire que ça fait partie d'un même projet. Mais j'ai voulu ici aussi... les deux sont à voir avec les visibles, mais ici d'une façon un peu différente. Mais je pense que voilà, ils font partie, ils font complément aussi par rapport à cette idée de qu'est-ce qu'on arrive aussi à voir. C'est pour ça qu'ils s'appelaient aussi signaux de fumée, et presque aussi l'effet de soulever une image et de montrer l'autre, c'est aussi presque comme on en fait un geste quelquefois dans les signaux de fumée. Et donc encore une fois, c'est entrer aussi les limites et les frontières de ce qu'on peut saisir. Et que peut-être ici, dans la répétition, on voit mieux. On dit, ah, peut-être on n'a pas vu, mais on le regarde encore une fois. Et donc,
on dirait que c'est un petit peu aussi comme une espèce de faisceau d'indices d'une enquête. C'est comme si tu avais en fait un ensemble, que le système était assez indiciel. C'est-à-dire qu'il y a une première œuvre qui va observer ce que, en quelque sorte, voit le centre de rétention. Donc un regard qui est un peu inversé d'un lieu invisible. Là, tu vas explorer d'autres modes d'apparition. J'ai l'impression que c'est comme si tu avais plein de petits fragments qui, au fur et à mesure, essayent de constituer une réalité invisible ou invisibilisée un petit peu. Parce que tu as d'autres corpus que tu n'as pas utilisés encore dans ce travail-là, comme moi, je pense aux extraits radio ou aux textes des livres qui sont ici.
Oui, non, c'est vrai que là, comme j'ai tombé avec plein de images et des pistes qui m'aidaient pour cette recherche, donc ici, j'ai voulu aussi... les montrer, mais dans l'association aussi, ça crée une image peut-être de ce qui s'est passé dans ce qu'on projette avec ce dialogue entre images, ça fait quelque chose. Et oui, je pense qu'il y a aussi des images des mains que vous voyez, que vous avez vues. Là, c'est un travail où j'ai récupéré des gestes, en fait, des anonymes dans les journaux où j'avais fait une autre œuvre. Et qu'ici, je l'ai incorporé pour ce travail. Donc oui, ça se tisse un peu entre chaque recherche pour donner une image beaucoup plus simple peut-être. Et venant dans ces projets, oui, comme tu dis, il y a par exemple plus d'informations que je trouvais et que ça va aider après pour faire ces projets qui va se nourrir de tout ça. Peut-être sera une autre forme, peut-être va inclure aussi ce qu'on a déjà tourné. Mais il y avait deux. Donc, avec cette idée des signaux de fumée que je voulais continuer, c'était parce que voilà, il a eu la suite, comme je vous disais, il y a encore des incendies qui s'est créé. Donc, aussi peut-être donner la suite à cette idée de cette étincelle qui a pris feu à un moment donné. Et sur les centres de rétention aussi, sous cet incendie en particulier. Et il a eu, dans la recherche, j'ai trouvé, par exemple, il a eu une représentation, je ne sais pas, Dominique, si tu savais, mais il avait une représentation dans un lycée CEP, qui s'appelle Maupassant, c'était où ? À Colombes. Ils ont repris les textes, les témoignages du feu au centre de rétention pour faire une représentation de théâtre. Donc, ils ont eu deux présentations en 2008. Donc aussi eux, des lycéens qui réinterprètent. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné vraiment, mais je trouvais intéressant aussi qu'il y a cette transmission de cet événement. C'est aussi comme vouloir écouter cet signal. Il y a aussi un jeu de vidéo dont je t'avais raconté. Au début, c'est un jeu de vidéo qui s'appelle l'école des avenues École de Joinville. Et que c'est les premières années d'un master de l'École nationale des jeux et multimédia, quelque chose comme ça qui s'appelle, et qui a voulu faire un jeu assez particulier. Et c'est un jeu qui ne dure pas longtemps, n'importe quel peut jouer, mais il est fait pour échouer, toujours. Et en essayant d'administrer ce centre de rétention, les joueurs, on va dire, il va toujours se confronter à des problèmes de budget, à des problèmes de quotas de jeunes expulsés, à tous ces problèmes qu'à un moment donné, et tout va finir par prendre feu. Et l'incendie, il va arriver tôt ou tard. Donc c'est un peu comme jouer la faillite d'un lieu et comme un centre de rétention. Donc je ne me rappelle pas la durée qu'il a ce jeu, mais c'est fait pour, donc ils ont voulu faire pour conscientiser un peu, pour se rendre compte de ces lieux qui ne sont pas de bâtiments pénitentiaires, mais qu'eux ils disent qu'ils se rassemblent, donc ils veulent montrer tout ça. Donc il a cette autre piste à explorer, cet autre matériel qui fait que ça prend de à notre ampleur et qu'on verra qu'est-ce que ça donne aussi en visitant ces lycéens avec toute cette information. Voilà, ça j'ai préparé pour vous.
Merci Stéphanie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses à ajouter. Peut-être vous vouliez préciser des choses sur le livre, nous dire un peu peut-être plus comment il est constitué.
Bonsoir. Bon, au départ, c'est un collectif de militants et de militantes. Enfin, moi, j'y tiens beaucoup parce que c'est quand même des gens qui étaient investis dans les luttes contre les expulsions, contre l'enfermement d'une manière générale depuis des années. On se connaît par affinité, en fait. Et par exemple, les premières luttes, enfin, moi, celles dont je me souviens, par rapport au centre de rétention, c'est à la suite de l'expulsion de l'église Saint-Bernard. Donc, c'était en 96. Enfin, je veux dire, à la suite de cette expulsion, il y avait une grande manifestation. Il y avait des occupants de l'église qui avaient été mis en centre de rétention. Et donc, la manifestation avait terminé au centre de rétention. Moi, c'est donc, et après, régulièrement, il y a toujours eu des actions qui avaient lieu au centre de rétention et après aussi des actions dans les aéroports, enfin, qui étaient en lien pour les gens qui après pouvaient être expulsés. Voilà. Et alors il y a plein de choses qui me sont venues en vous écoutant. D'abord parce que des incendies, il y en a régulièrement. Simplement, ça finit jamais, enfin, ça se passe jamais comme ça. Celui-là, on ne sait pas pourquoi le feu a pris, ça n'a jamais été éclairci, pourquoi ça a cramé de cette manière aussi importante. Quoi. C'est vrai que les flammes qu'on voyait, enfin, quand on était à côté, les pompiers sont venus avec la grande échelle, enfin, c'était assez terrible, et nous, on était dehors. Et on se disait, mais ils vont tous mourir là-dedans, quoi. Enfin, on n'arrivait pas à respirer dehors. Et on se disait, mais ils sont dedans, ils sont enfermés. On voyait, par la porte, les flics qui les faisaient mettre par terre et qui les retenus et qui les tapaient, quoi. Enfin, et on se disait, s'il y en a dans les cellules, ils vont mourir. On n'arrivait plus à respirer, quoi. Donc, c'est presque... Bien que c'est qu'il n'y ait pas eu plus de drames que ça. Bon, il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que cette histoire du centre de rétention, elle continue encore aujourd'hui, parce que là, il y a quand même 7 personnes, enfin, je crois que c'est 7, qui avaient été inculpées de l'incendie. Bon, pourquoi ces personnes-là ? Alors, ça, on ne l'a jamais su. Dans ces personnes, il y en a une, d'ailleurs, qui, une fois qu'elle était en prison, a été... battue dans une rixe avec un détenu, parce que compte tenu des conditions de détention, etc., enfin, on pourrait l'expliquer. Toujours est-il qu'en plus, cette personne s'est trouvée tétraplégique. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a encore 2 condamnations. Aujourd'hui ou hier, enfin. Il y a 2 condamnations qui sont tombées pour 2 des personnes à 15 mois ferme et 24 mois ferme. Donc, je veux dire, si... 8 ans après, il y a encore. C'est une histoire qui ne s'arrête jamais. Voilà. Ce que je voulais dire aussi par rapport au centre de rétention, sur l'invisibilité, c'est que par exemple, bon, maintenant, il y a celui du Mini-Lamelot, vers Roissy, qui est un truc au milieu de nulle part. Et ça, c'est aussi non seulement l'invisibilité, mais ça veut dire aussi que si jamais, parce que c'est arrivé avant, bon là, ça fait un petit bout de temps que c'est pas arrivé, mais avant c'était arrivé quand il y avait des révoltes dans les centres de rétention, il y avait aussi des gens qui arrivaient à s'échapper à ce moment-là. Et je veux dire, quand ils sont au milieu de la plaine, là-bas, de la plaine de Roissy, ils les récupèrent immédiatement, quoi. Il n'y a personne qui peut s'en échapper. Donc ça c'est aussi toute une logique d'enfermement. Bon, il y a aussi le fait, par exemple, sur l'invisibilité, que pendant longtemps, et je ne sais pas si sans doute que ça dure encore, les hôtels autour des aéroports servaient de centre de rétention. Il y avait des gens qui étaient enfermés dans les hôtels, l'hôtel Ibis, les hôtels Accor. Enfin, là-dessus aussi, il y a essayé d'y avoir plein d'actions sur ces choses-là. Voilà. Et donc au départ, c'est un groupe de gens qui a parce que on se disait c'est pas possible, parce qu'on était investis dans les luttes de sans-papiers et il y avait régulièrement des gens qui partaient, qui disparaissaient, qui allaient dans les centres de rétention, on les revoyait ou pas. On était tout le temps allés dans un tribunal spécial qui s'appelle le 35 bis pour essayer d'en faire sortir, ou au tribunal administratif, à se mobiliser, enfin, etc. Et donc, on a tourné de plus en plus autour de cette histoire de centre de rétention. Puis on a commencé, comme on connaissait des gens qui y allaient, à téléphoner. Voilà, parce qu'en fait, on peut prendre son téléphone et puis appeler au centre de rétention. Il y a des cabines. Et donc, il y avait des gens qui décrochaient. Et puis, alors, on essayait de leur expliquer. Bon, c'est un peu dit dans le livre, quoi. C'est vrai qu'on essayait d'expliquer que, voilà, on était des gens dehors et qu'on avait envie de faire passer à l'extérieur ce qu'il y avait à l'intérieur. Essayer d'être un relais, quoi. Et quand on entendait les gens qui nous racontaient... Enfin, moi, on était un groupe, hein, et moi, j'ai toujours eu... Je dois dire que j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire ça, quoi. Parce que, j'ai fait plein d'autres choses sur le livre, mais ça, téléphoner directement, moi, c'est con, mais ça me rendait malade, quoi. Enfin, je veux dire, quand on est là, qu'on entend ce qu'ils racontent à l'intérieur, qu'il y a des gens qui sont malades, qu'il y a des gens qui vont être renvoyés dans des pays où, parce qu'il n'y a pas que des réfugiés économiques, comme ils disent, et même s'il n'y avait que ça. Eh bien, on pourrait en parler aussi, hein, je veux dire, la misère économique, ce serait bien d'en prendre la part aussi de ce qu'on fait. Mais bon, il y a aussi des gens qui risquaient vraiment des choses terribles dans des pays où ils risquaient d'être envoyés. Donc, on se disait, mais c'est pas possible, quoi, ça va péter à un moment. Et donc, régulièrement, on mettait les témoignages sur Internet. en accès libre, enfin on racontait ce qu'on entendait, quoi, voilà. Mais on n'arrêtait pas de se dire, donc on a fait des manifs, on a essayé de faire des trucs devant le centre, et on se disait, voilà, ça va, c'est sûr, ça va péter à un moment. Et puis voilà, ben, à un moment, il y a eu l'incendie. Et donc, il y a des gens qui nous ont dit, mais les témoignages, il faut les regrouper, puis il faut en faire un livre pour, bon, un peu de la même manière, quoi, pour essayer de témoigner sur ce qui se passe. Parce que moi, je pense que il y a aussi les choses qu'on voit pas, puis il y a aussi les choses qu'on veut pas voir, je crois. Et si on regarde un petit peu autour de nous, bon, que ce soit les centres de rétention, que ce soit les campements, si on peut appeler ça des campements, qu'il y a eu pendant des mois sous le métro à Stalingrad, que ce soit ce qui se passait à Calais, enfin, ce bidonville complètement, enfin, des trucs comme ça, c'est pas possible, quoi. Donc, il suffit d'ouvrir un peu les yeux. Et moi, je trouve ça très bien. Enfin, c'est des discussions qu'on a eues avec les gens du collectif, hein, parce qu'il y avait des gens... Bon, de toute façon, les textes, ils étaient en accès libre. Mais c'est vrai qu'on a toujours un petit peu peur que y a, des fois, il y a des gens qui nous disent, ben voilà, on va utiliser vos textes. Et on se dit, oh là, bon, c'est pas nos textes en même temps. Hein, c'est sûr, c'est pas nos vies non plus. Hein, c'est les vies des gens qui étaient à l'intérieur. Mais on se dit, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces textes-là? Enfin, on a toujours un petit peu cette appréhension. Et c'est vrai que là, il y a eu des discussions parce qu'il y a des gens qui ont dit « Oh là là, on va faire un truc au jeu de paume, qu'est-ce que ça va donner ?» et tout. Bon, c'était pas évident non plus, quoi. Et bon, alors on était un certain nombre à dire « Mais de toute façon, plus on en parle, et mieux c'est, quoi. » Mais à partir du moment où on ne dit pas l'inverse de ce qui se passait, voilà. Et je voulais dire autre chose, mais c'est pas grave. Et voilà. Bah, et donc on a fait le bouquin à la suite de ça. Et puis après, comme il y a eu le procès, comme il a fallu payer les avocats, comme il a fallu envoyer du soutien, et ben du coup, bon, tout le on le vendait 7 euros, hein, donc tout le petit bénéfice qu'on faisait avec le bouquin, puis on s'en servait aussi pour faire des débats. On s'en est beaucoup servi pour faire des débats à la radio, dans des radios associatives, dans des trucs où on était invités, avec l'idée que de toute façon, ben voilà, plus on en parle et plus on espère qu'à un moment, ça va changer autrement qu'en déplaçant les centres de rétention ailleurs, quoi. Voilà.
Merci.
Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions plus précises. Enfin, moi, je voulais te remercier, quoi. C'est une histoire que je connais par cœur, mais je trouve ça vraiment bien comme ça, quoi. Non, j'ai été touchée par
merci
ça.
Merci à toi, Dominique. Par rapport à ce que tu disais, Dominique, c'est vrai aussi que ça continue. Moi, je suis aussi que le... Bon, maintenant, le plus grand, c'est celui qui est à Roissy. Donc, il avait aussi cette participation, justement, des hôtels qui étaient à côté. Mais il y a un autre à Toulouse qui est construit dans une zone où il est interdit de construire des habitations et tout pour les bruits, parce qu'il est nocif pour la santé, en fait, de vivre aussi proche que... Et donc, chaque fois aussi, c'est idée de les cacher aussi, mais qui c'est plus pratique parce qu'ils vont directement à prendre l'avion. Ils sont à l'aéroport maintenant. Avant, c'était pour eux, à Vincennes ou dans des autres endroits. Mais là, chaque fois, ils se font plus aussi proches de l'aéroport parce que c'est plus pratique de voyer directement. Et ça fait aussi des difficiles accès. Et bon, une chose très importante, je pense que tu as aussi là, est-ce qu'on veut voir aussi? Donc, l'idée aussi de visibilité, ça nous regarde aussi, mais est-ce qu'on veut voir aussi ça? Ou qu'est-ce qui nous empêche à aller voir? Et voilà.
Parce qu'à Marseille, il y a aussi près du port, quoi. Il y a une centre de rétention, bon, dans l'immobilier, mais avant, il était à côté du port, la prison d'Arrêt, c'était ce.
Et qui était incendié aussi, si je ne me trompe pas, en 2007, il a eu dans les centres de rétention à Marseille.
Ben c'est comme dans les prisons, en fait. Hein. Je veux dire, quand on dit que c'est une prison pour sans-papiers, c'est vraiment ça, quoi. Et quand il y a des révoltes dans les prisons, c'est avec les incendies que ça démarre, parce que c'est la seule chose, la seule manière que les personnes ont de faire signe, quoi.
Oui, je voulais reprendre ce que vous disiez justement sur cette question de faire signe, parce que je trouve que toi, avec tes signaux de fumée, il y avait aussi cette idée-là. Il y a un paradoxe, mais qui est un paradoxe, je trouve, qui fait vraiment la particularité de ce que tu proposes avec ce matériau-là, c'est que quelque part, il est dépeuplé pour l'instant, c'est-à-dire qu'on parle en fait d'une présence qui n'est pas représentée, comme aussi le livre, lui, c'est vraiment des paroles, donc on a une densité d'incarner. Toi, tu as pris un parti pris qui est un parti pris presque d'invisibilité très forte des corps, des paroles. Donc il y a à la fois un espèce de drame sourd qui se joue, mais pour l'instant, cette première, en tout cas, approche du projet, c'est comme tu dis, c'est quelque chose qui va continuer à évoluer. Tu choisis justement en fait d'avoir quelque chose qui fait signe, comme le signe de fumée, un signe de fumée qui nous oblige à imaginer quelque chose. Quand on voit un signe de fumée, on va voir la fumée et en fait ça devient un signe de quelque chose de vivant par l'imaginaire, quoi. Parce que le signe lui-même ne représente pas quelque chose, il est le signe de quelque chose d'autre. Il a là une forme de preuve en fait. L'incendie comme preuve que des gens vivent là, en quelque sorte.
Oui, comme tu m'avais dit aussi, les liens avec des autres travaux, c'est vrai que voilà, c'était pas de montrer ou d'utiliser des images qui nous montrent, déjà, ça veut dire cet recouvrement aussi par les médias de cet événement. Quelquefois, ils nous couvrent justement l'événement. Et donc, il y a aussi... Donc, je me dis toujours un peu, voilà, comment ne pas montrer ces images, que ça peut être seulement de l'ordre de la représentation. Voilà, ici, c'est les centres de rétention tels quels, non? Et donc, c'est aller l'image de cet événement, justement. Qu'est-ce que nous empêche à les voir? Donc, c'est pas seulement, voilà, jouer voilà, l'invisible, c'est seulement que c'est quoi cette frontière qui nous empêche de voir et créer cette nécessité d'image. Et que je pense qu'on est, voilà, on est bombardé tellement aussi des images en général. Est-ce qu'on vraiment on voit les événements? Donc c'est plutôt explorer cet questionnement.
Mais c'est aussi une question, j'ai l'impression, d'une forme de filtre qui permette d'accéder, j'ai envie de dire, cette espèce d'imagerie violente ou même cette réalité violente dans son espèce d'immédiateté un peu irréductible, nous laisse parfois sans capacité d'agir. Vous témoignez juste avant là de quelque part des gens qui se révoltent, qui quelque part vont agir par rapport à un événement extrêmement grave. Mais j'ai l'impression que il se passe un double phénomène, à la fois une capacité pour certains d'être en prise directement avec cette révolte, et à l'inverse pour toute une partie de gens qui sont, je crois, la majorité, une incapacité d'agir face à un événement s'il n'est pas filtré ou, je dirais, médié par quelque chose. Comme s'il fallait quelque part le rendre un tout petit peu moins radical pour essayer de commencer à l'imaginer et à agir, parce que sinon il dépasse l'entendement. Moi, je suis passé plein de fois devant Stalingrad avec les gens dans les tentes. C'est bizarre qu'il y a un effet que tu dis, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement une espèce de dénuement extrêmement direct, et j'ai l'impression que ça laisse aussi parfois sans capacité d'agir, paradoxalement. Tellement le point de départ de l'agir, c'est tout de suite maintenant. Il y a quelque chose, une espèce un dénuement immédiat dont on a été quand même dans nos sociétés relativement tenu à distance. On s'en rend compte. Quoi, vraiment voir des gens qui massivement occupent les rues. Moi, je pense que c'est que le début. Et quelque chose vis-à-vis duquel on n'est pas préparé. Et donc, comme on s'y est pas engagé. Il y a comme un chemin qui manque, quoi. C'est extrêmement proche, mais en fait, c'est extrêmement loin. Moi, pour avoir notamment ces derniers mois pas mal passé de temps à Berlin, où ils s'étaient mis dans l'idée d'accueillir des réfugiés. C'est-à-dire qu'ils avaient créé les conditions psychologiques d'accueillir des réfugiés. Et bien là, aller vers les gens, en fait, devient un truc possible. Ils ne sont pas différents de nous. Mais il y a une décision qui est prise, de se dire, bon, on s'en occupe. Du coup, cette chose-là, on y va. J'ai l'impression que nous, ici, on n'a pas pris cette décision-là. Psychologiquement, je veux dire, parce qu'elle n'est pas que, elle est beaucoup psychologiquement, elle n'est pas matériellement, on peut le faire, mais psychologiquement, il faut se dire, allez, c'est une chose qui est là maintenant, ça fait partie de nos prêts. Là, c'est comme si on attendait que ça disparaisse, que ça se résolve tout seul, en fait. Tu te dis, en gros, bon, allez, comme si on se disait, ça va aller.
Ça va passer.
Bah oui, bon, c'est là, on est un peu dans un cycle où j'ai l'impression qu'on se dit ça pour plein de choses. qu'en gros, le pire n'est pas possible, en fait, donc ça va aller. Si on attend, tous de notre côté, ça va se passer tout seul et un truc positif va arriver. Et moi, j'ai juste trouvé dans un cadre, et là, le contexte allemand est très intéressant, et eux, ils se sont dit, ça va pas, il faut agir, quoi. Et ça va pas aller mieux tout seul, quoi. Et j'ai l'impression que là, à Stalingrad, quand je passais, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, tiens, nous, on a rien décidé par rapport à ça. Si ce n'est un truc institutionnel, qu'on a vu, hein, parce que ceux qui créent des centres de rétention, ils créent des variations du camp, parce que là, on dirait que le centre de rétention, avec la prison, c'est l'endroit le plus radical. Et puis là, juste, on construit les variations, quoi. Un peu moins radical, de type de manière de caser un petit peu les gens et de les disperser, surtout, voilà. Ce à quoi je pensais, c'est aussi ça, c'est que l'une des techniques qu'on a utilisées pour diminuer la tension psychique que ça crée sur les gens, c'est de disperser, en fait, les gens. C'est-à-dire qu'en fait, on en met moins au même endroit, comme ça, on a l'impression qu'il y en a moins. Du coup, on dit, tiens, lui, on va les emmener au sud de la France, on va en mettre là-bas, on va en mettre là-bas. C'est le syndrome de Calais, quoi. Si on disperse Calais sur toute la France, finalement, Calais n'existe plus. Et de fait, ça continue à être le même nombre de gens dans plus ou moins le même dénuement. Mais sauf qu'effectivement, on n'a pas cet effet verrue, qui dans le cas de Calais, il me semblait que c'était quand même quelque chose qui est arrivé à un stade d'auto-organisation qui n'est pas la même chose que les gens qui ont juste une tente sous un pont, quoi, qui devient...
Quand ils les envoient dans la France, c'est pas des
tentes. Non, mais ils les font disparaître. Ils les placent dans les hôtels au jour 1, mais va au jour 30 ou va... C'est ça, mais après, vas-y une semaine après, ils sont plus là, les gars. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les disperse. C'est-à-dire qu'ils ont un hôtel, c'est là qu'on les emmène, parce qu'on a l'acte, c'est de Calais à un hôtel. Mais une semaine plus tard, c'est de Calais à nulle part dans la France. C'est-à-dire que les gens, ils sont éparpillés dans la France. C'est-à-dire qu'on les prend à l'endroit, c'est peut-être une technique, hein, pour se mélanger avec d'autres sociétés. Peut-être qu'il ne faut pas en mettre trop au même endroit, il faut en mettre un peu partout, et puis mélanger. Et puis, deux générations, on a métissé tout le monde, et ça va. Mais j'en sais rien, moi, je... Non, mais en tout cas, voilà, il y avait ce sentiment-là que la chose ne peut pas être... que la question du filtre, paradoxalement, peut être une manière qui nous rapproche de quelque chose auquel on n'arrive pas à accéder sans filtre. C'est-à-dire qu'une violence très radicale ou des situations qu'on n'a jamais vécues, on n'arrive pas à s'en approcher s'il n'y a pas quelque chose qui les filtre. Et c'est pour ça que, moi, je comprends votre crainte par rapport à la, entre guillemets, récupération de ces formes-là pour qu'elles circulent dans le champ de l'art. Il y a un risque qui est très important, que ça devienne quelque chose qui... Mais il y a aussi un enjeu possible que ça filtre ces réalités-là pour que des gens puissent y accéder. C'est-à-dire, se disent, le champ du militant, c'est aussi un champ des personnes convaincues. Ça rassemble tous les gens convaincus de quelque chose. Et c'est important, parce que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas grand-chose. Mais cependant, la limite, c'est que les personnes pas convaincues n'ont pas forcément de chemin pour entrer. Et moi, je trouve que ces formes-là, en tout cas, peuvent le permettre, même si c'est toujours une ligne très, très étroite.
Oui, non, et je me rappelle que tu m'avais dit, justement, on va discuter avec les collectifs pour voir ça. Et c'est vraiment un temps aussi que personne, donc citoyen, individu, je peux avoir mes engagements et ma façon de militer ou pas. Mais je dis aussi comme artiste, mais c'est comment voilà, ce genre de choses peut agir aussi dans le monde de l'art, mais plutôt comment l'art, si on arrive en tant qu'artiste, ça, tu n'arrives. Si on peut faire voir autrement, déjà, c'est énorme. Donc, voilà. C'est un peu mes outils, les armes qu'on peut avoir en tant qu'artiste aussi. Mais qu'il faut qu'on soit responsable aussi, voilà, de savoir comment on opère avec ça ou comment on les fait. Mais par rapport à ce que tu disais aussi, Olivier, de la cohésion, une chose qui était touchante dans les signaux de fumée, dans cette idée de qu'il y a cette force qu'on avait parlé au début de projet, comment voilà, ils sont isolés aussi dans ces centres de rétention. Il y a plus ou moins selon les centres, mais qu'il y a quelque chose, voilà, un geste très humain de vouloir... C'est révolté aussi, hein, face à cette situation, que même s'ils sont isolés dans des centres de rétention très loin, Et voilà, il y a un feu, il y a une union. Donc je comprends en même temps ce que tu dis, comment aussi si tu isoles les gens, c'est aussi isoler la possibilité qu'ils se réunissent et qu'ils provoquent une lutte. Et ici, c'est ça qui est un peu touchant, dans quelle situation ils sont. Quelquefois, ils sont là pendant un jour, deux jours, qu'ils restent et ils se mettent à mettre le feu. Tu vois ce que je veux dire, ils ne savent pas quelquefois combien de temps ils vont rester là, mais c'est aussi une solidarité, ou parce qu'ils sont quelque chose qu'il faut qu'ils agissent à ces moments-là qui fait, et c'est énorme. Tu vois, d'où s'incendie aussi pendant tout ce temps-là, c'est tacite comme ça, c'est touchant.
Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation.
Merci à vous d'être venue.
Ça donne envie de voir la suite bientôt. En tout cas, donc, au jeu de paume jusqu'au mois de janvier, c'est ?
Et oui, jusqu'à le mois de janvier.
On peut voir ces deux pièces-là en très bonne place au sein de l'exposition Soulèvement. Ouais. Mm. Et, non, mais c'est vrai, c'est en très bonne place. Et on se retrouvera peut-être dans quelques mois pour parler de ce que sont devenus
quelques
ces...
Quelques mois ? Ouais, ah ben non, bravo.
Dans quelques temps, en tout cas, pour parler de ce que sont devenus ces signaux de fumée. Voilà, merci.
Merci, Olivier. Merci à vous tous d'être venus. Merci.